Aujourd'hui, on va continuer notre étude sur le thème du péché. On va voir d'un autre angle aujourd'hui. Et au cas où j'oublie de le dire tout à l'heure, donc je vais mettre sur la table là-bas quelques feuilles qui concernent le sujet. Mais c'est en fait, ça spécifie les divers péchés et mouvements religieux ou expériences, on va dire paranormal, etc., qui sont offensifs à Dieu. Donc, j'espère que vous prendrez une feuille à la fin de la réunion. Donc, on commence aujourd'hui avec le verset Romains, chapitre 3, versets 23 et 24. Romains, chapitre 3. Versets 23 et 24. C'est un verset que tout chrétien devrait connaître par mémoire. Mais on va le lire quand même, pour ne pas se tromper. Hein? Parce que c'est, en fait, un verset qui devrait être déjà au début de notre départ avec le Seigneur. De reconnaître qu'on est pécheur. OK? Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc la déclaration qu'on est tous pécheurs, et par l'œuvre de Jésus-Christ, une personne peut être sauvée par la foi. Donc la grâce par la foi. Okay? Donc c'est vraiment le point de base, quand vous parlez avec quelqu'un, s'ils ne vont jamais devenir chrétiens, il faut reconnaître qu'ils sont pécheurs. Tous ont péché. C'est le premier point dans le message de l'Évangile. Personne n'est sans péché. Tous sont coupables et tous sont condamnés. Alors, vous souvenez bien que le péché originel a été l'acte d'Adam pour vivre indépendamment de Dieu. Pour vivre indépendamment de Dieu. Qui veut dire que Adam s'est séparé de Dieu. Dieu qui est la vie. Ça veut dire que Adam a choisi de vivre dans la mort. Parce qu'il s'est séparé de la vie. Et Dieu avait averti Adam que le jour dans lequel tu manges de ce fruit, tu mourras certainement. Et pourtant, il était encore vivant. Ah oui, mais la séparation avec Dieu, donc la séparation et la signification de base de l'idée de mort, quand vous allez mourir physiquement, votre corps et votre âme seront séparés. Le moment que votre partie immatérielle quitte votre corps, eh bien, vous êtes mort. C'est la séparation définitive pour la vie physique. OK? Donc, le jour que Adam a péché, il est mort spirituellement. Et nous sommes tous nés morts spirituellement. Nous avons un esprit mort. Et c'est en croyant en Jésus-Christ que Dieu donne la vie à notre esprit. Il nous vivifie, il nous donne la nouvelle naissance. Mais dans la réalité, chaque personne née dans le péché, née séparée de Dieu, donc née spirituellement morte, plus tard, il y aura, selon la personne, donc la mort physique, que ce soit la naissance ou que ce soit la vieillesse. Et après, il y a la mort, la seconde mort, la mort éternelle. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut croire en Jésus-Christ. Alors, on doit bien comprendre non seulement le péché offense Dieu profondément, et là j'en ai parlé de ça il y a deux semaines, je pense. Le péché offense Dieu, mais nos péchés gâchent nos relations avec les autres gens. On en vit égoïstement dans notre péché. On va mentir, on va tricher, on va voler, on va faire plein de choses qui vont faire du mal aux autres. Peut-être on fera du mal à soi-même et on va faire du mal aux autres. Alors, le Seigneur dit dans Ésaïe 53, verset 6, « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. » Ça, c'est la première moitié du verset. Ésaïe 53, verset 6, « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. » À l'origine, donc, Dieu a créé l'homme à son image, et l'homme vivait en harmonie avec Dieu. Il n'y avait point de différence morale entre Dieu et Adam, parce que Adam venait d'être créé des mains de Dieu dans un état, on dit, innocent. Il était absolument ignorant du mal. Mais notre ancêtre à nous tous, eh bien, il a préféré vivre en contradiction. Contradiction avec la volonté de Dieu, contradiction avec la personne de Dieu. Adam a déclenché une différence morale entre lui-même et Dieu. C'est l'homme qui s'est corrompu. Ce n'est pas Dieu qui a changé. Dieu ne peut pas changer. Mais c'est l'homme en se tournant contre Dieu, c'est l'homme qui s'est corrompu. Alors cette séparation existe encore aujourd'hui, donc dans le verset qu'on vient de lire, chacun est comme un brebis errant. Donc, dans le Nouveau Testament, on va dire, chacun est perdu, un brebis errant, et chacun suivait sa propre voie, une manière égoïste de vivre. On ne s'inquiète pas pour ce que Dieu veut. On fait ce qu'on veut. C'est un peu le cri national, n'est-ce pas? Je veux vivre comme je veux. Ça veut dire je veux vivre dans le péché. Je veux vivre indépendamment de Dieu. Et Dieu a donné déjà au début de la nation d'Israël, eh bien, il a donné les 10 commandements. Et les 10 commandements sont comme une lumière globale pour aider les gens comme un miroir pour voir où ils sont en opposition à Dieu. Ça, c'est dans Exode, chapitre 20. Mais on ne va pas regarder là tout de suite. Jésus a résumé toute la loi, tout l'Ancien Testament, dans deux petites phrases. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, etc. Et tu aimeras ton prochain toi-même. Deux règles qui résument le tout. Mais c'est les affirmations. Au lieu de négation, tu auras point, il dit, tu aimes ton prochain. Okay? L'un c'est négatif, l'autre c'est positif. Okay? Mais tous les deux disent la même chose. Donc, je pensais que ce serait bien de voir un petit peu dans le livre de Lévitique. Et on ne va pas vraiment tourner là. Enfin, vous pouvez, mais moi je vais donner simplement un résumé du livre. Et les détails sont justement sur la feuille qui est là-bas, ok? Plein de détails. Donc, si vous voyez, il y a les sujets qui sont traités en Lévitique, dans une certaine partie, on verra ça tout à l'heure. Donc, fausse religion. Et puis en bas, j'ai l'homme doit s'attacher à la vérité, ok? Donc, il y a le problème par ici et ce que l'homme devrait faire ici. Mais la réalité, c'est que nous ne faisons pas. Et qu'on ne fait pas la volonté de Dieu, on est dans le péché. Okay? Donc, j'espère que vous prendrez une feuille. Et puis, à l'autre côté, il y a un article concernant les expériences spirituelles non chrétiennes. Okay? Et cette liste n'est pas définitive. Il y a plein d'autres choses. On pourrait peut-être écrire tout un livre. Mais c'est seulement une liste pour résumer ces choses-là. Donc, dans Lévitique, on a 27 chapitres, ok? On ne va pas lire les 27 chapitres ce matin, je les résume. Dans les premiers 10 chapitres, on voit les sacrifices et les offrandes pour les péchés. Mais il n'y a plus de sacrifices et offrandes pour les péchés. Pourquoi? Parce que Jésus a tout payé sur la croix. Okay, Jésus-Christ a achevé les sacrifices et les offrandes de l'Ancien Testament quand il était sur la croix, et c'est pour cela qu'il a déclaré « Tout est accompli. » Fini. OK? Mais dans Lévitique, chapitre 1 à 10, il y a plein de règles que Dieu avait données au peuple d'Israël, pas aux chrétiens, mais au peuple d'Israël, qu'il fallait faire pendant dans leur nation. Après Lévitique, chapitre 11 à 16, il y a des questions d'hygiène, de maladie et surtout le lèpre. Okay? Donc, ce sont des règles d'hygiène, etc., nationales pour l'époque juive. Ça ne nous concerne pas, bien que nous voulons quand même avoir une certaine hygiène de vie. Et on ne veut pas être malade. Hein? On n'est pas contre l'hygiène, on n'est pas contre la santé. Mais ce ne sont pas les règles pour nous aujourd'hui, c'était les règles pour un certain peuple à un certain moment. Dans Lévitique chapitre 17 à 20, donc ça c'est les chapitres qui nous concernent le plus ce matin, tu as les abominations qui entraînent la destruction d'une personne, d'une ville, d'un peuple, et bien du monde entier. Les choses qui offensent Dieu moralement et profondément. Okay? Donc, on va revenir là-dessus, mais je veux dire simplement qu'il y a deux versets qui viennent de là, de ce texte-là, mais qui sont dans le Nouveau Testament et qui sont parmi les plus importants versets dans le Nouveau Testament. Donc, quand Jésus a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », ça vient de Lévitique, chapitre 19. Ça ne fait pas partie des 10 commandements. C'est intéressant. Et trois fois, il y a la citation « Soyez saints ou vous serez saints, car je suis saint. » Dans le Nouveau Testament, à plusieurs reprises, on retrouve ça. Dieu veut que les chrétiens soient saints. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Dieu ne peut pas changer. Mais nous pouvons changer. Nous qui ne sommes pas saints, nous pouvons être saints. Nous pouvons mettre notre vie au service de Dieu. OK? Donc, trois fois dans le Nouveau Testament, on fait cette citation. Et c'est aussi dans chapitre 19 de Lévitique et encore une seconde fois dans Lévitique chapitre 20. Donc, deux fois dans ce texte-là. Donc, ces versets-là, c'est de 17, 18, 19 et 20. Ces quatre chapitres nous concernent. Et c'est le Nouveau Testament qui nous le dit. Pas de manière rituelle, mais par la question morale. Ce sont des choses qui offensent Dieu. OK? Après, dans Lévitique chapitre 21 et 22, il y a des questions concernant les prêtres. Eh bien, nous avons un seul prêtre, nous les chrétiens, et c'est notre souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que le Nouveau Testament dit que nous sommes un peuple de sacrificateurs, n'est-ce pas? Une nation de sacrificateurs, mais dans le sens que quelqu'un intercède pour notre, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est notre souverain sacrificateur. Dans Lévitique chapitre 23 à 25, il y a les grandes fêtes religieuses chez les Israélites. Ce n'est pas les grandes fêtes religieuses pour nous. Nous, les chrétiens, bibliquement, nous n'avons aucune fête religieuse. Oh oui, mais Noël! c'est pas une fête biblique. La Pâque, oui, c'est vrai, la Pâque, c'est la Pâque, mais ce n'est pas dit que les chrétiens doivent le respecter un certain jour, une certaine façon, etc. Et puis, il y a d'autres choses que dans certains groupes chrétiens, on veut pratiquer. Mais il n'y a rien dans le Nouveau Testament pour les fêtes religieuses. Après, dans Lévitique, chapitre 25 à 27, pour terminer le livre, il y a des questions de justice et de finances. Alors, nous aimons quand même la justice et nous devons nous occuper des finances. Mais nous n'avons pas des règles chrétiennes vis-à-vis de ces choses-là, comme dans la nation d'Israël. Mais nous voulons quand même respecter une certaine justice de vie et nous devons gérer notre budget, n'est-ce pas? Il y a quand même des finances que nous devons prendre soin de nos finances. Okay? Donc, ça c'est la globalité du livre. Alors, c'est les chapitres 17 à 20 qui sont vraiment pleins d'informations pour nous les chrétiens. Ce sont des chapitres qui éclairent plusieurs pratiques, comme j'ai déjà dit, qui offensent Dieu. Dieu ne change jamais. Quand Adam a péché, c'est Adam qui a changé. Quand nous péchons, c'est nous qui péchons, mais Dieu, il ne change pas. Il est toujours offensé par chaque péché. Donc, le mot principal à repérer dans ces quelques chapitres-là, c'est le mot abomination. Abomination. Donc, dans les dictionnaires bibliques, on nous donne des définitions. C'est une chose ou une action qui offense gravement le sens moral, le sentiment religieux ou les goûts naturels qui suscitent le dégoût. Et puis, plus tard, il dit « avoir en horreur, abhorrer, une chose infâme, abominable, odieux. » Ce sont les synonymes pour ce mot « abominable ». Et encore le mot « impur », à détester, horrible, comme une odeur répugnante et donc abominable. OK? Donc, je vous rappelle que j'ai mis les feuilles là-bas pour les détails. Hein? Ça prend toute la liste de ces chapitres et détaille les choses que Dieu considère offensives moralement. Quand je dis ça, ça veut dire que ces choses frappent contre la nature même de Dieu. C'est pour cela que le péché est néfaste. C'est pas que c'est moral, oh, Dieu, oh, c'est un petit péché. Dieu est infiniment saint. Et dans notre petit péché, est infiniment offensif à Dieu. Donc j'ai fait une liste de quelques-uns quand même, mais la liste définitive pour la question dans le chapitre de Lévitique sont sur la feuille. Okay? Il y a les mensonges. Les mensonges sont une abomination à Dieu. Les faussetés, l'injustice, hypocrisie, infidélité, immoralité, mauvaise pensée, ce sont des mensonges qui offensent Dieu. Il y a la haine. Injustice, méchanceté, meurtre, manque de bien, violence, ce sont des offenses morales contre Dieu. L'orgueil, c'est la personne qui se lève, qui est égoïste. Et l'ultime sera l'antichrist, hein, quand on parle de l'orgueil. Okay? Les immoralités, et à la liste des immoralités, excusez-moi, la liste des immoralités sur la feuille. Donc, Lévitique, ces chapitres-là détaillent ce que Dieu considère immoralité. Ce n'est pas ce que nous pensons ou ce que notre gouvernement définit comme immoral ou amoral, mais ce que Dieu dit. Donc, je dis immoralité diverse parce qu'il y en a plein. Donc, on voit dans le Nouveau Testament des fois le mot adultère. Ou même dans le Moïse dit... tu ne commettras point d'adultère. C'est très vaste comme idée. C'est tout ce qui est fornication, immoralité, adultère, viol, tout ce qui est une offense immorale qui est élaborée dans ces chapitres de Lévitique, qui sont résumés dans un petit mot qui dit adultère. OK? Et puis, toute fausse religion. Eh bien, au moins, à mon avis, quand on sacrifie un être humain, dans une religion païenne, ça c'est pour moi c'est le pire. Mais toute fausse religion est offensive au caractère de Dieu parce que toute fausse religion est contre la personne de Dieu. Parce que la seule vraie religion, c'est Dieu. OK? Pourtant, les fausses religions, les sectes, les déviations, ils sont assez séduisantes. Il y a plein de monde qui se laisse dévier par là, par là, par là, etc. On parlait avec ce jeune le lion l'autre jour, et il y avait des vocabulaires bibliques, mais c'était quel mouvement?
Les Rastas.
Les Rastas. Donc il était tout confondu, mais il ne voulait pas se mettre à la parole non plus, mais il voulait argumenter. C'était pas utile. Hein? Jean nous dit fouiller l'idolâtrie. Il parle de tout ce qui est religion qui est fausse, surtout ces pratiques horribles. Mais fouillez. Ah, oh, mais c'est pas trop mal. Ah, oh, mais je vais peut-être écouter ça. Fouillez, il a dit. Et la réalité, c'est que, qu'on veut le dire ou pas, on est certainement tous coupables sur plusieurs niveaux de cette liste. Je répète la liste. Mensonge, haine, orgueil, immoralité, fausse religion. On est certainement coupable dans plusieurs domaines, chaque personne. Hein, pas de la même manière. Hein. Mais au fond, étant pécheurs, nous avons certainement commis ou participé dans ces choses. Et donc, comme j'ai dit au début, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il ne faut pas avoir un orgueil pour dire « Ah non, je ne suis pas si mauvais que ça. » Si, on est tous dans le même bateau. Hein? On est tous aussi mauvais que ça. Parce qu'on a une nature pécheresse dans laquelle il y a toutes les possibilités du péché. Ça ne veut pas dire qu'on commet tous les péchés, mais qu'on aurait pu ou on pourra, dans les circonstances, commettre n'importe quel péché, si ce n'est pas la grâce de Dieu qui nous aide à ne pas le faire, n'est-ce pas? Donc, il faut reconnaître le problème du péché pour pouvoir bénéficier de l'Évangile. Vous qui sont chrétiens parmi nous aujourd'hui, vous avez déjà réglé ces questions de péché. Vous avez déjà reconnu à Dieu que vous êtes pécheur et accepté le sacrifice de Jésus à votre place. Vous avez déjà confiance en Jésus. Mais quand vous parlez aux autres, vous ne pouvez pas ignorer ce thème. « Oh, mais je ne veux pas parler de péché, ça c'est négatif. » Oui, c'est négatif. Mais c'est le problème. On ne peut pas éviter le problème. Je parlais avec deux dames musulmanes hier. J'ai dit, ben, je pourrais vous l'expliquer, mais il y a des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Ah, mais elle dit, je ne veux pas entendre les mauvaises nouvelles. Je veux entendre que les bonnes nouvelles. Donc, j'ai commencé avec les bonnes nouvelles, mais j'ai dit, ben, après, il faut que je vous explique quand même les mauvaises nouvelles. Hein? Et donc, parler du péché, n'est-ce pas? On a lu tout à l'heure, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le prochain verset dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La propitiation qu'on a invoquée tout à l'heure. Okay? Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ceux qui croient en Jésus-Christ sont sauvé. Ce n'est pas par nos œuvres, c'est par la grâce. C'est-à-dire, c'est un cadeau. C'est un don que nous ne pouvons pas payer. Oh, mais je veux payer 10 centimes. Ou je vais payer 1 milliard d'euros. Non. Dieu n'accepte pas un paiement de notre part. Il a tout fait 100%. Et si on veut ajouter, c'est offensif à Dieu. Donc, un péché. On a lu tout à l'heure, et nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et je n'ai pas fini le verset, donc je vais le finir maintenant. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'iniquité de nous tous. Tous nos péchés sont tombés sur le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre qui l'a été oublié. Toutes nos iniquités étaient payées par le Seigneur Jésus-Christ en tant que notre agneau de Dieu. À notre place, le mot j'ai dit tout à l'heure, le substitut. À notre place. Par l'Évangile, Dieu pardonne, il purifie, il justifie, il vivifie. Dieu rend la vie éternelle aux croyants et Dieu purifie le croyant de tout péché grâce à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez, vous pouvez lire dans Hébreux chapitre 10. Je vais lire 14 et je vais lire verset 17 aussi, mais je vais mettre dans la forme « nous » pour le verset 17. Hébreux chapitre 10. « Hébreux chapitre 10, verset 14. Par une seule offrande, Dieu a amené à la perfection pour quelques jours. C'est ça que ça veut dire? Pour combien de temps?
Toujours.
Pour toujours. Pour l'éternité. OK? Je recommence. Par une seule offrande, en parlant du Seigneur Jésus-Christ sur la croix, Dieu a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont sauvés, ceux qui sont lavés dans le sang du Seigneur Jésus. Et puis au verset 17, et je le transforme dans la forme « nous » au lieu de « il », OK? Dieu ne se souvient plus de nos péchés ni de nos iniquités. Ça ne peut pas être mieux que ça. Hein? Il nous a amenés à la perfection pour toujours et il ne se souvient plus du tout de nos péchés et nos iniquités. Gloire à Dieu. Hein? Amen, non? Hein? Par la suite, puisqu'on est devenu chrétien, suite à notre conversion, maintenant que nous sommes sauvés, nous allons prendre du temps pour apprendre la parole de Dieu. Parce que c'est vrai, nous n'avons plus peur de Dieu parce qu'il n'y a plus de condamnation. On est en paix avec Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'on sait comment être un bon chrétien, comment plaire à Dieu. Et l'enfant de Dieu veut plaire à son Père céleste. Donc, il va passer du temps dans la parole pour apprendre comment être, comment vivre en harmonie avec Dieu ici-bas. Ça, c'est suite à la conversion que Dieu va changer nos vies. Ça, c'est suite à notre salut. On a déjà cette promesse que Dieu nous a amenés à la perfection pour toujours et qu'il ne se souvient plus de nos péchés ou de nos iniquités, mais ça ne veut pas dire qu'on est parfait, qu'on a toujours les choses à apprendre et les choses à changer dans nos vies. On veut marcher avec Dieu. Vous vous souvenez, Genèse, chapitre 2 et 3, donc on a le problème du péché, et chapitre 4, on a le meurtre, et puis la polygamie, etc. Et puis chapitre 5, on a toutes ces gens qui sont morts, 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 sauf pour, je ne sais pas comment le prononcer,
Enoch,
merci, qui marchait avec Dieu pendant 300 quelque chose d'années, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ça que Jean dit, il faut qu'on marche avec Dieu. Paul dit aussi, il faut qu'on marche dans la lumière. Ben, quelle lumière? La lumière de la parole. C'est pour... c'est pour cela que les listes là sont importantes. OK? Pour qu'on sache ce qui offense Dieu. Ce n'est pas pour nous perfectionner dans un sens comme ça, mais c'est pour dire que, oh, tiens, si je fais ça, c'est offensif à Dieu. Je ne veux pas faire ça. Pourquoi? Parce que je veux plaire à Dieu. Je ne crains pas une punition, une condamnation. Jésus est déjà condamné pour moi. Mais ça ne veut pas dire que ma vie plaît à Dieu. Et donc, quand Dieu, par la lumière de la parole, va m'éclairer sur une chose, donc les listes qui sont là viennent d'un côté, c'est Lévitique, chapitre 17 à 20. Mais l'autre côté, c'est la liste de plein de activités religieuses, etc. Eh bien, on veut éviter ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas offenser Dieu. On veut plaire à Dieu. Nous devons abstenir de tout ce qui offense Dieu parce que nous voulons lui plaire. J'espère que ça aide, donc je ne focalise pas sur le péché pour nous taper sur la tête, mais c'est pour qu'on comprenne que c'est le problème du fond dans toutes ces manifestations à travers nos vies, mais heureusement, Dieu a réglé le problème du péché pour chaque personne qui croit en Jésus-Christ, pour qu'on puisse déjà être sauvé et par la suite qu'on puisse marcher avec lui. Donc j'espère que ces messages-là vous aident.